Vous mettez un gros paquet de techniques bien austères, l'informatique. Vous touillez avec des étudiants qui s'ennuient et quelques financiers malins. Vous arrosez le tout avec les débuts de la conquête spatiale et pas mal de science-fiction. Et en quelques années, vous obtenez un truc culte. Des jeux sur ordinateur. Ça, c'était il y a 30 ans, la préhistoire. Dans les labos d'informatique de chaque campus américain, on jouait le soir à détourner les gros ordinateurs pour descendre des martiens. Ça faisait partie de la contre-culture, c'était élitiste et gratuit. Et puis, il y a eu Nolan Bushnell qui a créé le premier vrai jeu grand public, Pong. C'était il y a tout juste 25 ans. 25 ans de jeux vidéo, c'est bien sûr 25 ans d'arcade. 25 ans de console et 25 ans de micro. C'est aussi 25 ans de création. Et oui, derrière les lignes de code, il y a des hommes. C'est également 25 ans d'incompréhension, 25 ans de reproche.
En 25 ans, ils se sont imposés dans le monde entier comme un loisir à part entière, au même titre que la télévision, le cinéma, le rock ou la BD. Non sans mal. En 25 ans, tout a été dit pour les détruire, les ruiner. Aujourd'hui encore, ils restent méprisés, pris avec des pincettes. La télévision, le cinéma, le rock, la BD ont leur chair à l'université, pas les jeux vidéo.
Chers amis...
On reconnaît la culture rock, la cinéphilie est enseignée, la télévision a même ses académies. Rien de tel pour les jeux vidéo. Bref, 25 ans de jeux vidéo égale 25 ans de persécution. Les jeux vidéo, pourtant nés au cœur du plus prestigieux centre de recherche mondial, le MIT, quitte très vite les universités pour se retrouver dans les bars, les amusement centers, bref, selon la bourgeoisie bien-pensante américaine, des repères de voyous, voire même des lieux de blanchiment, du fric de la mafia. Du coup, dès 1973, pétitions, manifestations, menaces d'interdiction tentent d'étouffer la passion dévorante des premiers addicts. Les jeux vidéo sont la cible des gouvernements comme des associations de parents d'élèves. Aux Philippines, le dictateur Marcos envoie des commandos détruire des machines à coups de hache pour tenter de bloquer l'expansion des mafias japonaises en Asie du Sud-Est. À Rio, les jeux sont accusés d'engloutir le quart du maigre salaire des coursiers. Aux États-Unis, les salles d'arcade sont rendues responsables du développement de la criminalité juvénile. On leur envoie les flics.
Nos policiers nous rapportent régulièrement que des problèmes de trafic de drogue se posent dans ces salles de jeu.
Bref, dès le départ, les jeux vidéo sont dans une bonne ambiance. Les critiques vont évoluer avec l'arrivée du VCS 2006 d'Atari et l'entrée des jeux vidéo dans les magasins de jouets à côté des poupées Barbie. Les choses se calment un peu. On tente d'accuser les jeux d'abîmer la télé. Et puis, il y a des procès retentissants, comme celui intenté par les associations féministes à l'occasion de la sortie de Custer Revenge. Ce jeu est un vrai collector. On y voit le général Custer affronter une pluie de flèches pour violer une jeune indienne attachée à un poteau. Au passage, pour les archéologues du jeu vidéo, notons ce plan historique qui rassemble la fine fleur des jeux limites du VCS Atari. C'est vrai, ça valait bien une manifestation. Il y a aussi des attaques sur un plan médical. On signale quelques cas de tendinite du pouce et les jeux sont accusés de rendre asociaux. Mais les anti-jeux vidéo n'ont plus vraiment besoin de développer leurs attaques. On ne tire plus sur une ambulance. Après 1983, 10 ans seulement après la création de Pong, Atari, Mattel et CBS se retirent de la bagarre. Les jeux vidéo n'étaient qu'une mode. Les jeux vidéo sont morts. Fin de la première décennie. La deuxième décennie s'ouvre plutôt dans un climat de mépris. Les jeux vidéo, c'est bon pour les simples d'esprit. Les gens intelligents, eux, ils s'achètent des micro-ordinateurs qui rendent intelligents, qui permettent d'apprendre le basique, de gérer le budget familial et les fiches de cuisine. Bref, c'est calme, c'est la décennie du mépris. Et puis, début 90, signal d'alarme. Un enfant sur deux joue à un jeu vidéo tous les jours. Et c'est reparti pour un tour. Fini les tendinites, l'épilepsie et la trouvaille majeure. Les jeux vidéo rendent épileptiques, les jeux vidéo ont tué mon fils, s'exclame une pauvre maman dans le Sun, le quotidien à scandale anglais. Tous les médecins ont beau expliquer que les jeux vidéo ne peuvent en aucun cas rendre épileptiques des gens bien portants, rien n'y fait. Les fabricants sont obligés de rajouter des mentions d'avertissement sur leurs boîtes, mentions qu'on retrouve encore aujourd'hui, même sur les atlas ou les encyclopédies. Tous les médias se ruent à l'assaut des jeux vidéo. Les jeux vidéo incitent à la violence.
C'est dangereux pour les enfants et dangereux pour la société. Je trouve absolument scandaleux qu'on apprenne à des enfants à tuer et à mutiler, comme le font indirectement les jeux vidéo.
Ils sont racistes, on cite régulièrement quelques titres anti-juifs ou anti-arabes qui circulent sous le manteau à quelques dizaines d'exemplaires. Ils sont sexistes, bref, les chiens sont lâchés.
Par définition, les enfants sont jeunes. Ils sont vulnérables et influençables. Et l'objectif de ces jeux est de toucher leur inconscient. Je trouve cela tout à fait immoral.
Peu importe si les tops des meilleures ventes mettent en avant courses de voitures, jeux d'aventure, jeux de stratégie, simulateurs de vol. Et aujourd'hui, où en est-on? Les attaques ressortent régulièrement, de préférence au moment des fêtes, largement initiées d'ailleurs par les lobbies du jeu traditionnel. Quant aux critiques, elles émanent le plus souvent des gens qui ne sont pas joueurs, qui détestent les jeux. Dans le cinéma ou dans la BD, les véritables critiques aiment la BD, aiment le cinéma. Allez, pas besoin de continuer à enfoncer le clou. Tous les plaisirs des ados ont toujours déclenché des attaques violentes de ceux qui ne les comprenaient pas. Les premières années d'une nouvelle culture sont toujours une bagarre. Mais seul le jeu vidéo a bénéficié d'un tir d'artillerie aussi lourd et sur une aussi longue durée. Après tout, on peut le prendre comme une forme d'hommage. Et aujourd'hui, les choses évoluent. Une première génération d'adultes qui ont joué petit arrive et aime toujours les jeux vidéo. Et puis qui sait, on aura peut-être bientôt les porte-paroles qui ont toujours manqué au jeu. Qui sera le Bob Dylan du jeu vidéo ?
Au début des années 70, l'idée des jeux électroniques est dans l'air. Mais personne ne sait comment faire pour que la machine ne coûte pas cher et comment gagner de l'argent avec tout ça. Un homme va résoudre l'équation.
En 1972, les États-Unis sont au sommet d'une période de prospérité record. Richard Nixon est président, la guerre du Vietnam s'achève et la mission Apollo 15 vient de se poser sur la Lune. Pendant ce temps-là, sur Terre, Nolan Bushnell, jeune ingénieur plein d'ambition, installe une drôle de machine dans un café de Sunnyvale, petite ville de la Silicon Valley. C'est Pong, bien sûr, le tout premier jeu où l'on mettait des pièces pour jouer. Et dès la fin de la première journée, paf, c'est la panne. Bushnell accourt et s'aperçoit qu'en fait de panne, c'est le réservoir de pièces qui déborde. Pong est un succès instantané. En 2 ans, Atari, la société qu'il vient de créer, en vend plus de 100 000 dans le monde. Les copies de Pong se multiplient. Les nouveaux jeux électroniques envahissent les cafés, détrônent les bons vieux flippers des années 60 et créent un véritable phénomène de mode. Mais bientôt, on commence à se lasser des jeux de raquettes. Les temps ont changé. En 1977, le premier Star Wars sort sur les écrans. La même année, le japonais Taito reprend la balle au bond et invente Space Invaders. Les japonais découvrent les jeux vidéo et c'est la folie. La légende dit même qu'à cause d'eux, la banque centrale de Tokyo a été obligée de réémettre des pièces de 10 yens. Aux États-Unis, ce sont les fabricants de flippers Bally et Midway qui rachètent la licence de Space Invaders. Ça marche, le jeu trouve un second souffle et les batailles spatiales se succèdent. Les salles d'arcade se sont multipliées. Pour que les écrans des nouvelles machines ressortent mieux, on diminue la lumière, c'est sombre et ça brille. La première génération de joueurs grandit dans ces salles obscures d'un nouveau genre. Le public, adolescent et surtout masculin, passe des heures debout, l'œil rivé sur l'écran et la main sur le joystick. Avec un seul idéal, faire un top score pour entrer dans le Hall of Fame. Voilà Asteroids, Galaxian, Centipede et en 1980, Defender, le premier jeu à scrolling horizontal. Steve Jurasek, 15 ans, y joue 16 heures 34 minutes d'affilée avec la même pièce. Score 15 963 000, record absolu. Mais qui est cette petite boule gloutonne qui débarque en 81? C'est Pac-Man, le tout premier personnage des jeux vidéo. Il est tellement sympathique qu'il plaît aussi aux femmes et aux enfants. C'est une véritable Pac-Mania qui se déclenche. Pac-Man est partout. Il a même sa chanson. Dans la foulée, on voit apparaître des personnages rigolos et des écrans de toutes les couleurs. Les jeux vidéo, devenus tout mignons, envahissent les centres commerciaux aux États-Unis. C'est pratique, on laisse les enfants s'amuser pendant qu'on va faire les courses. Au Japon, on trouve une borne d'arcade pour 350 Japonais. Tout le monde joue. Même l'Europe commence à être sérieusement atteinte. Et puis, patatras. Début 80, les consoles apparaissent sur le marché. Et oui, maintenant on peut jouer à la maison. La tendance est au cocooning. On préfère la moquette du salon au néon glauque des salles d'arcade. Du coup, dehors, les salles se dégradent. Les trois quarts ferment, il y a pourtant 6000 jeux nouveaux entre 82 et 88. Mais trop c'est trop, et puis il n'y a plus d'innovation dans l'arcade, on en a marre. La récession dure le temps des années 80. Vous avez peut-être oublié ces temps sombres car vous étiez sur vos consoles et vos micros. Dans les années 90, le joueur est gâté. Pentium, console 64 bits, il y a chez lui tout ce qu'il veut. Et pourtant, c'est à ce moment-là que les salles d'arcade sont redevenues importantes. C'est là qu'on trouve les jeux les plus innovants, des écrans géants, des fauteuils qui bougent, des casques de réalité virtuelle. Comme le cinéma face à la concurrence de la télé, les jeux d'arcade n'ont qu'une solution, la fuite en avant technologique. Tout ce qu'on ne peut pas avoir à la maison, on le trouve dans de grands centres de jeux, bien propres et bien gardés. Bienvenue à toute la famille.
Dès 1966, un ingénieur nommé Ralph Baer crée une première console domestique, l'Odyssée. Mais personne ne sait réellement quoi faire de cette machine. Personne n'a d'idée de jeu, ou alors ils sont trop compliqués et n'amusent que les scientifiques. C'est trop nouveau.
Si Nolan Bushnell est considéré aujourd'hui comme le père des jeux vidéo, c'est grâce à ses qualités de businessman.
Je crois que Atari a marché parce qu'on avait réuni la meilleure équipe. On a fait en sorte que l'entreprise fonctionne d'un point de vue économique. Et je pense qu'à l'époque, il y eut souvent des inventeurs, mais rarement des hommes d'affaires. Et moi, par chance, j'étais les deux à la fois.
Avant lui, il y avait eu l'Odyssée, la première console domestique avec ses caches interchangeables qu'on collait sur l'écran. Mais sa diffusion est restée confidentielle. Bushnell, lui, n'est pas seulement un inventeur et c'est pour ça qu'il a réussi. Très vite, il a compris qu'il fallait faire rentrer les consoles dans les foyers. Pong en arcade, c'est un public d'adultes, c'est quelques centaines de milliers de machines. Pong en console, c'est papa, maman, les enfants et même le chat. 13 millions de consoles vendues entre 1973 et 1976. Les clones de Pong se multiplient. Il y a le tennis, le football, la pelote basque, mais tout ça se ressemble quand même beaucoup. À partir de 1976, Atari introduit la VCS 2006, la seconde console majeure de l'histoire des jeux vidéo, dont les jeux sur cartouche sont interchangeables. Avec la VCS 2006, Nolan va toucher le jackpot. Au début des années 80, consoles et cartouches se vendent par millions. Sans doute Atari n'est pas seul. Il y a l'Intellivision, soutenue par le géant du jouet, Mattel. Il y a aussi la Coleco, une puissance inégalée et d'excellentes adaptations d'arcade, dont le célèbre Zaxxon, qui donne même naissance à un jeu en carton. Enfin, la petite dernière, la Vectrex, avec son écran incorporé à graphisme vectoriel. Mais ni l'Intellivision, ni la Coleco n'arriveront à concurrencer l'Atari 2006. Et puis en 1983, c'est le grand crash. Surproduction, baisse des prix, brutalement, tout le monde perd de l'argent.
Ils ont perdu tellement d'argent qu'ils ont pris peur. Et jamais dans toute l'histoire de l'humanité, les leaders d'un secteur n'avaient abandonné leur activité. Et c'est exactement cela qu'a fait Atari. Ils ont pensé que c'était fini.
Nintendo ne commettra pas la même erreur. Dans les années 70, c'est une petite société familiale spécialisée dans les jeux de cartes et les gadgets les plus improbables. Et puis en 1983, les ingénieurs de Nintendo inventent une console à cartouche. Le Family Computer de Nintendo submerge le Japon. Le succès de Nintendo repose pour une bonne part sur cet homme, Shigeru Miyamoto, le créateur de Donkey Kong et de Mario. Mario incarne un gentil personnage bien éloigné de la violence supposée des salles d'arcade. Avec ses gentils monstres et ses champignons pas trop hallucinogènes, il rassure les parents, qui se moquent bien de savoir que Mario dicte sa loi à tous les éditeurs qui créent des jeux pour lui et parle d'égal à égal avec les plus grands groupes industriels. Konnichiwa, konnichiwa, super Famicom. Le succès du Nintendo Entertainment System est mondial. Le marché américain est conquis en 1986, si complètement qu'Atari intente à Nintendo un procès pour monopole. Pour les joueurs, peu importe. Ce qui compte, c'est que les jeux vidéo ne sont plus une mode, qu'ils ont leur place dans les foyers. Une véritable industrie est née, avec ses constructeurs, ses artistes, ses médias. Quatrième étape et quatrième console phare, la Mega Drive. Sega, qui n'avait pas réussi à lutter contre Nintendo à l'époque des consoles 8 bits, prend sa revanche avec la Mega Drive, qui fait presque jeu égal avec la Super NES aux États-Unis et s'impose en Angleterre, premier marché européen. Derrière Sonic et Mario se dressent des groupes dont les chiffres d'affaires se mesurent désormais en milliards de dollars. Mais dès 93, les 16 bits commencent à vaciller. Les joueurs veulent toujours plus de technologie. Le PC commence à s'éveiller sur le front ludique et une nouvelle génération de machines est en préparation dans les labos de développement. Et c'est l'entrée d'un troisième larron dans la bagarre. Sony et sa PlayStation qui s'imposent comme la machine de cinquième génération. Si Nintendo et Sega sont des géants à l'échelle des jeux vidéo, ils ne peuvent rien contre le rouleau compresseur Sony, au chiffre d'affaires 10 fois supérieur au leur. En 25 ans, 5 machines incarnent 5 générations, Pong, la VCS 2006, la NES, la Mega Drive, la PlayStation. Quelle sera la prochaine? Réponse dans 5 ans.
C'est en 1975, un peu après les jeux d'arcade et les consoles, qu'apparaissent les premiers micro-ordinateurs. Au départ, le micro, c'est l'anti-console de jeu. C'est pour programmer, calculer, faire des choses sérieuses et scientifiques. Mais le micro célibataire va vite devenir fou des jeux.
Les jeux micro aujourd'hui, c'est Microsoft, Electronic Arts, Virgin. Aujourd'hui, on n'a pas honte d'acheter un PC hyper puissant pour jouer. Aujourd'hui, pour développer un jeu, on embauche entre 50 et 100 personnes et ça coûte des millions, voire des dizaines de millions de dollars. Presque autant que pour tourner un Schwarzenegger. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Si les jeux pour consoles ont toujours été traités comme des produits industriels, fabriqués à grande échelle, les jeux micro sont avant tout des œuvres d'amateurs, de passionnés, en tout cas au début, barbus, chevelus et en plein dans la mouvance hippie. Ces fous d'informatique nageaient entre deux extrêmes. D'un côté, ils avaient beaucoup de temps et une liberté de création totale. Ils développaient pour eux sans souci de rentabilité.
Tous mes premiers jeux ont été créés dans ma chambre. Ou plus précisément dans mon placard. J'en avais sorti tous les vêtements et les avais mis dans la chambre de mon frère. Puis j'ai installé un bureau avec des étagères. L'ordinateur se trouvait là et j'allais dans mon placard. Je fermais la porte et j'étais dans mon petit monde, seul avec ma machine et mes enceintes.
Et en même temps, il travaillait dans un océan de contraintes.
La documentation technique était presque inexistante à l'époque. Il fallait tout apprendre soi-même.
Pas de doc technique, des machines pas du tout adaptées, sans carte son et sans couleur.
En 1974, je jouais sur une machine à bande perforée qui tapait 10 caractères à la seconde.
Inutile de préciser qu'avec de telles machines, l'imaginaire du joueur était largement sollicité. Et c'était bon. Les programmeurs rusaient comme des bêtes pour nous faire prendre quelques pixels pour des dragons, des amazones ou des guerriers. Bien sûr, il fallait une loupe pour distinguer savoir si c'était un guerrier ou une amazone. Mais les joueurs adoraient ça. Et puis après, il y a eu des tas de machines. Les ZX, Oric, VIC-20, Thomson, Excel Vision. Des machines qui ont marché, des ordinateurs qui sont mort-nés, comme le Lancet 64 ou le Squall. N'empêche, tous ces micros ont formé des générations de programmeurs qui passaient des nuits à recopier des lignes de code imprimées sur du mauvais papier. Une manne pour les éditeurs de journaux. Une manne également pour Infogrames, Loriciel, Air Informatique, France Images Logiciel, Cobrasoft et bien d'autres qui ont vécu en développant des dizaines de jeux pour des dizaines de machines. Ça ne coûtait pas grand-chose à créer, tout se vendait. Et les accros réglaient l'azimutage de leurs magnétocassettes à coups de mini-tournevis. Et puis les jeux étaient plus longs sur micro que sur console. On pouvait sauvegarder ses scores, sauvegarder ses parties. On plongeait dans La Bête du Gévaudan ou dans Bilbo le Hobbit pour des mois. Le rapport au temps était différent. Quand on jouait micro, on n'était pas encore dans la société de consommation et on méprisait vaguement ces cartouches qu'il suffisait d'enficher dans une console pour que ça marche. C'était clair, on n'appartenait pas à la même tribu. 25 ans après, tout a changé. Jetez un coup d'œil sur les génériques de vos jeux, on croirait un générique de film. Et puis, les contraintes de stockage ont disparu. La définition d'un jeu micro est supérieure à celle d'une émission de télé. Et c'est peut-être tant mieux si derrière les jeux se dressent maintenant des World Company. Ce n'est pas avec quelques créateurs, même de génie, qu'on aurait un marché qui pèse aujourd'hui 8 milliards de dollars. Ensuite, World Company ou pas, les purs, les vrais créateurs, eux, continuent.
Il s'appelle Sid Meier, Alexei Pajitnov, Nolan Bushnell, Richard Garriott, Bill Stiley, et il commence à faire parler d'eux. Ce sont les stars qui ont si longtemps manqué aux jeux vidéo. Et oui, derrière les boîtes en carton et les lignes de code, il y a des hommes avec leurs success stories, leurs échecs, leur destin.
Je m'appelle Alexei Pajitnov. Je suis connu pour mon jeu Tetris et je travaille actuellement pour Microsoft.
De Moscou au campus de Microsoft à Seattle, l'itinéraire de Pajitnov dénote une sacrée ténacité. D'autant que Pajitnov n'a pas gagné grand-chose avec Tetris, sorti en novembre 1987.
De l'argent avec Tetris? J'ai commencé à toucher des royalties pour Tetris en 1996. Et je n'ai pas à me plaindre. Mais après 10 ans, c'est un assez vieux jeu. Enfin, il m'a rendu célèbre, il m'a lancé, il a changé ma vie. Je suis assez content.
Pour lui, l'argent ne compte pas vraiment. Richard Garriott ou Nolan Bushnell, eux, semblent toujours émerveillés d'avoir pu gagner de l'argent avec l'objet de leur passion.
En fait, quand j'ai gradué de high school, qui était 1979,
après mon diplôme en 79, j'ai travaillé l'été dans un magasin d'ordinateurs. Le patron du magasin m'a dit, « Pourquoi n'édites-tu pas ton jeu ?» Alors j'ai dépensé ce qui me semblait être une somme énorme, $200, pour acheter des sacs en plastique et faire des photocopies. Et j'ai auto-édité mon premier jeu à Calabet. J'en ai vendu 30 000 exemplaires, ce qui est bien même aujourd'hui. Mes royalties s'élevaient à $5 l'unité, soit $150 000 pour 3 mois de travail le soir. Ça ne m'avait presque rien coûté. Le retour sur investissement était énorme. Il était évident que je devais persister dans cette voie.
Avec mon associé, on a mis $250 chacun dans l'affaire. Avec ça, nous avons imprimé des cartes de visite. On travaillait dans notre garage. Et nous avons fabriqué notre bureau avec quelques planches et des outils. Et c'est comme ça que tout a commencé.
Et puis vient la Warner qui rachète Atari.
Ils m'ont offert $27 millions. Comparé au chiffre à la Bill Gates, ça semble assez peu. Mais pour moi, le gamin de l'Utah qui avait encore du foin sortant de mon col, c'était plus que je n'avais jamais espéré. Alors j'ai dit OK.
Pour Bill Stiley aussi, créateur de Microprose, avec Sid Meier, ça a marché fort.
Microprose est parti de très bas. Au début, j'ai même dû hypothéquer ma voiture pour payer les salaires. Puis on a ouvert notre capital. Quand j'ai vendu ma part, on avait plus de 400 employés. On était devenus les numéros 2 mondiaux. On avait une réputation du tonnerre.
Mais dans la vie des auteurs de jeux, il y a aussi des bas.
Puis tout à coup, je n'étais plus personne, seulement un mauvais golfeur. J'étais le patron de la deuxième plus grande marque de jeux, avec une réputation excellente, connue dans le monde entier. Quand je montrais mes jeux, tout le monde me reconnaissait. Puis je n'étais plus qu'un mauvais golfeur, quel crash.
Quant à Bushnell, il décline la proposition de Jobs et Wozniak, ses employés à l'époque, de lancer le premier micro qui deviendra l'Apple.
J'ai tourné la page et j'ai créé PizzaTime Seattle. Ensuite, j'ai fondé E-Tech, la première entreprise de téléroutage automobile. Ensuite, j'ai fait des animaux électroniques. Sans grand succès, ça n'a pas fait beaucoup de bruit.
That was a modest success, so not everyone has heard about it. Then I did a thing in.
Puis j'ai travaillé sur les systèmes téléphoniques dans les télécommunications. Et maintenant, je travaille pour Aristo sur le projet Playnet.
Et les autres, où en sont-ils?
Il y a une forte tendance chez les concepteurs à fonder leur propre compagnie pour se concentrer sur la créativité et faire de nouveaux jeux en laissant les grands groupes s'occuper des ventes et du marketing. Des concepteurs de jeux comme Peter Molyneux, Chris Roberts et moi-même, nous dotons de structures, nous évitant la pression quotidienne, nous affranchissant des délais à tenir. Comme ça, on peut se donner pleinement à la réalisation de nos jeux.
Voilà, en 25 ans, ils ont été des créateurs, puis ils sont devenus des businessmen. Aujourd'hui, ils ne veulent plus qu'une chose, créer. Et tant pis si on attend leur jeu 5 ans, ça n'a aucune importance. Ils sont libres. Freedom! Au fait, vous avez vu ce qui est marqué sur son t-shirt?
Voilà, 25 ans de jeux vidéo, c'est fini. Rendez-vous en 2022 pour le cinquantenaire.